RCF. Rassembler économie et social à travers l'entrepreneuriat auprès des plus démunis, c'est toute l'ambition de l'ONG Entrepreneurs du Monde, une ONG qui existe depuis 1998 et qui agit en local mais partout dans le monde. On la découvre avec nos deux invités dans les Jeudis de l'Écho. L'économie sociale dans la campagne présidentielle. L'ONG lyonnaise Entrepreneurs du Monde interpelle avec humour les candidats pour promouvoir cette économie. Une ONG qui rassemble notamment autour de cette phrase « On a tous une bonne raison de soutenir les entrepreneurs démunis ». Et on va entrer dans ce monde de l'économie sociale avec donc nos deux invités dans les Jeudis de l'Écho ce soir. Armelle Renaudin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc vous êtes cofondatrice et responsable communication et collecte d'Entrepreneurs du Monde. Et Thibaut Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinateur des équipes et responsable du pôle insertion professionnelle et très petites entreprises donc au sein de cette ONG. Pourquoi avoir lancé déjà cette campagne, cette touche un petit peu humoristique quand même? C'est plus une action de communication aussi que vous avez voulu faire passer, Armelle Renaudin?
Oui, cette campagne, elle a pour but d'attirer l'attention à la fois des candidats à l'élection présidentielle et du grand public. Elle est humoristique, elle est différenciante et nous pouvons la développer sans frais pour impacter sur notre association parce qu'elle est conçue et diffusée par des partenaires engagés à nos côtés.
Et donc vous avez fondé cette ONG Entrepreneurs du Monde sur quelle base vous, sur quel constat, à la base en 1998,
hein,
c'est ça?
Oui, alors j'ai fait une école de commerce et dans l'intention d'acquérir des compétences et de les mettre ensuite au service des plus pauvres. Et je suis partie d'abord avec mon mari en Haïti et aux Philippines avec une autre association qu'Entrepreneurs du Monde. Et à force de côtoyer les personnes sur le terrain qui étaient pauvres mais entreprenantes, on s'est dit que ça correspondait bien justement à notre façon pour nous de rejoindre, de mettre l'économique au service d'un objectif social. Que ces personnes qui démarraient du jour au lendemain une petite activité génératrice de revenus avec beaucoup d'inventivité, d'audace et de ténacité ensuite, elles avaient besoin quand même pour consolider et développer leur activité de services complémentaires. Et donc, fort de cette expérience sur le terrain de 7 ans, nous sommes rentrés en France et nous avons créé Entrepreneurs du Monde donc en 1998 et nous fêterons nos 25 ans l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on fait donc chez Entrepreneurs du Monde pour ces personnes-là? Eh bien, nous développons une méthodologie que nous avons développée, affinée au fil du temps, qui permet de servir vraiment les plus vulnérables.
On va y revenir après, mais savoir déjà aussi les objectifs de cette ONG, vraiment au départ, c'est l'accompagnement d'entrepreneurs ou vraiment vous êtes aller chercher des personnes pour créer des entreprises, souvent des très petites entreprises?
À la base, en fait, Entrepreneurs du Monde analyse les besoins des populations sur le terrain. Les besoins qui peuvent ne pas être couverts par l'État, par les collectivités territoriales ou par d'autres organismes. Et fort des constats que l'on fait, on décide de créer en premier lieu un programme Entrepreneurs du Monde, donc porté vraiment par l'ONG lyonnaise. Et pour ça, nous allons recruter des personnes, alors locales et expatriées. Nous allons mener une recherche de financement pour démarrer les premières activités. Mais notre but, il est de démarrer un programme au niveau local qui se base sur les besoins des populations et qui développe des activités pour répondre à ces besoins. Au fur et à mesure, l'équipe locale va faire tout le nécessaire pour enregistrer le programme au niveau des autorités locales. Donc, ils vont créer une entreprise locale qui va porter les activités. Des activités qui sont génératrices de revenus. Voilà, donc on va parler microfinance sociale, accès à l'énergie ou autre. C'est ce qui va nous permettre, en fait, d'asseoir une entreprise sociale avec un modèle économique pérenne, donc qui va continuer de répondre aux besoins des populations au fil du temps. Donc ces entreprises locales, la plupart du temps, ce sont des institutions de microfinance qui vont financer des micro-entrepreneurs. Et très souvent des femmes, là, Armelle pourra aussi en parler, des femmes qui mènent des activités génératrices de revenus.
Armelle Renaudin aussi, au départ, c'est vraiment dans les pays étrangers que vous intervenez?
Oui, on est dans une douzaine de pays, en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est et en Haïti. Et depuis 3 ans, nous sommes aussi dans la métropole lyonnaise. À force d'avoir été un petit peu taquinés par nos donateurs qui nous disaient « c'est bien beau d'aller aider les plus pauvres ailleurs, mais il y a aussi de la précarité en France, et c'est vrai », eh bien, nous avons démarré un programme pour des personnes en situation de vulnérabilité à Lyon. Puis aussi maintenant à Rouen.
Mais donc au départ, vraiment, à l'étranger, d'aider ces populations aussi. Quelle population vous accompagnez dans cette méthode-là, dans ce développement d'entreprise ?
Alors, ce sont surtout des femmes. 88% des bénéficiaires sont des femmes en microfinance. Pourquoi ? Parce qu'elles sont allées moins longtemps à l'école, elles ont moins accès à leurs droits civiques, moins accès au foncier, moins accès au capital. Et ce sont donc des personnes qui ont moins accès à l'emploi que les hommes. Donc ce sont elles qui démarrent une activité génératrice de revenus et qui ont besoin des services financiers et non financiers que nous leur apportons. Alors ces services-là, c'est donc d'une part des microcrédits, moyenne de 244 euros, c'est vraiment des tout petits crédits, des services d'épargne. Les microcrédits sont accordés sans caution, sans garantie, ce qui nous permet de réellement aller chercher les plus pauvres. Et de les accompagner grâce à un dispositif de groupe que nous rencontrons une à deux fois par mois. Et au cours de ces rencontres, nous dispensons des formations, soit sur des thèmes économiques, par exemple, comment bien calculer son prix de vente, comment bien gérer son stock, comment ne plus vendre à perte, comment ne pas mélanger le budget de la famille et de l'activité, etc. Et puis, il y a aussi tout un volet indispensable, selon nous, de formation sociale. Vous voyez qu'on mêle encore économique et social, ça va de pair. Et donc les formations sociales, ce sont par exemple pourquoi prioriser la scolarisation des filles, comment espacer les naissances, comment éviter les mariages précoces.
Donc social au sens large.
Voilà, comment éviter les violences familiales, etc. Et nous pensons que tout cet accompagnement financier et non financier est nécessaire pour que ces personnes, et en l'occurrence ces femmes, gagnent en compétences et en autonomie sur tous les plans, assurent le quotidien de leurs enfants et de cette façon ouvrent véritablement l'avenir de ces enfants. Et on a tous les jours des témoignages de femmes qui nous disent « grâce à votre accompagnement, je peux nourrir mes enfants 3 fois par jour, mes enfants je les envoie à l'école tous les jours et mon aînée, elle a eu son bac et elle fait une formation pour être sage-femme par exemple. » Et à ce moment-là, notre appui, il est au ras des pâquerettes, au quotidien, dans la proximité, mais il est ouvert sur l'avenir. Et on peut considérer que même si les personnes que nous appuyons ne vont pas à leur stade pouvoir sortir, par exemple, du bidonville, c'est une marche plus haute, leurs enfants, eux, parce qu'ils auront eu leur quotidien assuré, auront pu aller à l'école plus longtemps, avoir un emploi plus stable et sortir du bidonville, avoir un quotidien, un logement décent durablement.
Et comment est-ce que vous allez aussi chercher ces personnes ? Est-ce qu'il y a un choix qui est fait au départ ? Puisque des démunis, il y en a des personnes qui sont dans la pauvreté, il y en a un peu partout dans le monde. Sur quel choix, sur quels critères peut-être vous allez porter votre accompagnement ?
Alors, on cible en particulier les pays les plus pauvres, suivant des indicateurs socio-économiques très larges. Ensuite, Entrepreneurs du Monde peut faire appel à des étudiants pour mener des premières études à distance qui vont nous être...
Sur place ?
Des étudiants de Sciences Po Bordeaux, par exemple, okay, qu'on a déjà mobilisés par le passé, et qui vont pouvoir nous fournir des premières données utiles aux équipes d'Entrepreneurs du Monde, qui ensuite vont aller sur le terrain pour vérifier ces données-là, rencontrer les différents acteurs au niveau de l'État, d'autres qui œuvrent sur le terrain au plus près.
Des associations, par exemple.
Des associations de prise en charge des personnes vulnérables, par exemple. Tout à fait. D'autres institutions de microfinance. Et puis, évidemment, ces équipes vont aller à la rencontre de bénéficiaires potentiels. Voilà, pour analyser encore une fois leurs besoins. Et à partir de là, développer les bases en fait d'un plan d'affaires qui va être utile pour créer cette organisation locale portée par Entrepreneurs du Monde. Mais très souvent, en fait, on passe par ces associations de prise en charge de personnes vulnérables. C'est comme ça qu'on a démarré, par exemple, au Togo en 2012. On a tout d'abord travaillé avec des associations qui agissaient auprès de personnes en situation de handicap ou des personnes vivant avec le VIH. Des personnes finalement qui restaient exclues du secteur de la microfinance classique. Alors que vous aviez déjà des centaines d'institutions de microfinance dans le pays, ces populations-là restaient exclues. Et ces associations on fait appel à Entrepreneurs du Monde qui avait cette méthodologie, qui avait développé cette méthodologie ailleurs et qui fonctionnait. Et les associations ont fait appel à Entrepreneurs du Monde pour développer la même chose pour leurs bénéficiaires. Mmh. Voilà, c'est comme ça qu'on a démarré en 2012 au Togo.
Les Jeudis de l'Écho, Corentin Dubois.
Et nous sommes avec Armelle Renaudin, cofondatrice et responsable communication et collecte d'Entrepreneurs du Monde, ONG lyonnaise, et Thibaut Marie, coordinateur des équipes et responsable du pôle insertion professionnelle et très petites entreprises, donc au sein de cette ONG Entrepreneurs du Monde. On parle de cette méthodologie, donc qui, on le rappelle, donc vous nous avez dit il y a quelques instants, qui s'étale à la fois sur le court terme mais aussi sur le long terme à travers ce côté social, à côté avec les formations que vous mettez en place. Cette méthodologie quand même a évolué au cours de temps, depuis 1998. Vous avez fait évoluer cette méthodologie?
Oui, elle a évolué parce que au départ, Entrepreneurs du Monde a appuyé plusieurs organisations locales déjà existantes pour mettre en œuvre une mission sociale très forte. Et au fil du temps, parce que l'ONG s'est rendu compte que certaines populations restaient exclues, comme je le disais tout à l'heure, d'un système déjà existant, on a souhaité créer puis incuber nos propres organisations. Alors effectivement, en matière de microfinance sociale, nous avons une méthodologie qui est propre à Entrepreneurs du Monde, avec des fondamentaux qui restent souvent les mêmes un peu partout, mais forcément cette méthodologie, elle va évoluer en fonction des pays, compte tenu de chaque contexte, compte tenu encore une fois. Ça, c'est vraiment une priorité compte tenu des besoins des bénéficiaires. Voilà, mais ça reste à peu près la même. Alors après, c'est vrai que la microfinance sociale, donc tout ce qui est épargne, crédit, formation, accompagnement, ça, c'est notre métier historique. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on a identifié de nouveaux besoins chez nos bénéficiaires. Donc typiquement, dans les années 2010, nous avons fait le constat que les ménages les plus pauvres que nous touchions à travers la microfinance consacrent encore à peu près un quart de leur budget pour acheter des combustibles, pour cuisiner, pour s'éclairer, etc. Et c'est comme ça qu'on a fait le choix de développer des systèmes de distribution d'équipements de cuisson et d'équipements d'éclairage. Et au fil du temps, on a fait évoluer un peu le modèle et aujourd'hui, on développe, on crée et on incube des entreprises sociales qui commercialisent ces équipements. Donc là, je parle de foyers améliorés qui fonctionnent à bois ou charbon, des réchauds à gaz et aussi des lampes solaires. Et on parle même de solar home system, donc des équipements qui vont venir éclairer une maison grâce à un petit panneau solaire et plusieurs ampoules, ce qui est typiquement installé dans des bidonvilles à Manille aux Philippines.
Est-ce qu'il y a des projets concrets que vous pouvez nous donner un petit peu de personnes que vous avez accompagnées, Armelle Renaudin?
Alors, les exemples foisonnent dans mon esprit.
Il y a eu beaucoup de projets. Vous avez, depuis 1998, est-ce que vous avez un chiffre de projets que vous avez accompagné?
Alors, on appuie 114 000 entrepreneurs chaque année. Oui. Moi, j'ai envie de vous donner deux exemples de notre premier métier, puis après, on pourra ouvrir sur autre chose. Mais, par exemple, Aïda, qui travaille dans le sud du Sénégal, en Casamance, dans une région qui produit beaucoup de fruits. Le soir, elle transforme les fruits en jus ou en sirop. Elle les fait refroidir pendant la nuit. Et le matin, elle part faire de sa vente de porte en porte. Et elle est maligne parce que non seulement elle fait des ventes ponctuelles, mais elle a réussi à instaurer un petit système d'abonnement. Donc, elle produit le soir ce qu'elle sait qu'elle pourra vendre le lendemain. Ça va très vite. Elle arrive, elle dépose la commande habituelle. Elle récupère les quelques pièces. Elle part à la maison suivante. C'est une bosseuse. L'après-midi, elle a tout vendu. Elle reprépare ses jus pour le lendemain, etc. Et ses trois enfants vont à l'école. Et elle est leader de son groupe. Et ça, c'est important aussi dans notre méthodologie, c'est qu'on voit rapidement que ces femmes deviennent des modèles inspirants pour d'autres. Et c'est aussi comme ça qu'elles vont identifier des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'appui pour développer leur activité ou pour créer leur propre activité. Voilà, ces modèles inspirants, elles sont fières. J'en suis très fière aussi. Je pense aussi à Judy au Togo qui était veuve parce que son mari était mort du sida, et elle traversait toute la ville pour suivre sa trithérapie dans une association dont on était partenaire, pour que dans son quartier personne ne sache qu'elle soit malade elle aussi. Et là, avec ces femmes atteintes du VIH, elles ont créé un groupe de micro-entrepreneurs. Et Judy, son job, c'était d'aller chercher sur le port des grosses balles de vêtements de seconde main. Et à l'époque, elle pouvait avoir qu'une partie de la balle d'ailleurs. Et donc, elle choisissait pas. On l'ouvrait, on lui donnait une partie de la balle. Elle rentre chez elle, elle va chez la couturière à côté. Elle customise ce qu'elle a récupéré. Et donc, elle apporte de la valeur ajoutée à ses vêtements. Et elle les vend plus cher le lendemain sur le marché ou de porte en porte. C'est vraiment des femmes qui sont courageuses, dont j'ai plein de visages en tête. Et à qui il suffit de pas grand chose pour transformer, réussir, consolider. Et notre leitmotiv, c'est avec presque rien, on peut changer presque tout. Et on le voit dans des tas d'exemples au quotidien.
Et justement, dans ces personnes que vous accompagnez, y en a qui ont vraiment cette fibre d'entrepreneur, en fait, qui était un petit peu cachée ou pas forcément développée à cause de la situation, à cause de leur situation de misère.
Oui, alors il y en a qui créent de l'emploi même, hein. Ouais. Je pense à une transformatrice de mangue au Sénégal, Blanche, qui a créé sa marque, qui forme maintenant d'autres transformatrices, qui a employé 3 personnes. Je pense à une boulangère au Togo qui a formé 4 boulangères qui donnent du travail à 7 vendeurs de rue. Je pense aussi au Vietnam, dans le nord du Vietnam où nous sommes, il y a des agricultrices qui sont devenues des leaders de groupe, qui créent des filières. Enfin, c'est des vrais entrepreneurs. C'est des vrais entrepreneurs. Chaque rencontre est une fierté. Ça donne du sens à chacune de nos journées.
Et l'accompagnement peut être différent selon les pays, les personnes. Est-ce que vous observez, ou maintenant aussi en France, puisque vous êtes actif sur la métropole lyonnaise, est-ce qu'il y a des différences dans l'accompagnement, dans la façon de voir l'entrepreneuriat aussi auprès de ces personnes?
Oui, en fait, ce qu'il y a là où je dirais surtout, c'est qu'il y a des différences dans le temps. Donc Thibault en a déjà parlé, on change, on innove. Par exemple, depuis 3 ans, on priorise les agriculteurs. Donc on va changer notre méthode pour répondre aux besoins. Pourquoi on s'intéresse plus aux agriculteurs? Parce que ce sont les premiers à être victimes du changement climatique. Les inondations, les sécheresses deviennent cataclysmiques. Et il suffit de pas grand-chose pour les aider à s'adapter à ce changement. Donc on a mis en place des crédits agricoles qui sont plus calés sur les mêmes périodes que pour les commerçantes et les tisserandes. Mais ce sont des crédits qui sont remboursables à la fin de la récolte. Ce sont des formations complètement adaptées. On fait des écoles au champ. On réintroduit et on améliore des techniques d'agroécologie pour que les personnes puissent mieux irriguer leurs champs, utiliser des composts, utiliser des méthodes de permaculture et se réapproprier les semences. C'est vraiment leur redonner une possibilité d'assurer la sécurité alimentaire de leur pays.
Je rebondis sur ce que dit Armel, parce qu'on a été encore plus loin au Sénégal, dans le nord-est du pays, et on a créé un programme, Farouré MOB, qui consiste à construire des greniers de stockage éco-responsables pour permettre aux producteurs et productrices de la zone de stocker leurs récoltes et faire face donc à la fluctuation des prix sur le marché. Cette technique-là, elle a été développée par Entrepreneurs du Monde en partenariat avec d'autres organisations françaises et sénégalaises. Et c'est un soutien supplémentaire pour les populations locales. Et on veut aller encore plus loin au-delà de ces greniers, c'est de permettre à ces personnes d'être formées sur de nouvelles techniques de production agricole. C'est d'avoir accès à des unités de transformation que Entrepreneurs du Monde peut équiper, justement pour donner davantage de valeur ajoutée à leur production.
Et sur la métropole lyonnaise, est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans le détail de certains projets que vous avez pu accompagner, donc qui s'est fait donc plus récemment, puisque avant vous étiez vraiment à l'étranger. Vous nous avez dit que cette précarité aussi était là, en bas de nos immeubles, en bas de nos maisons. Comment vous intervenez ici sur le territoire?
Très différemment. Oui et non, mais différemment, puisqu'on est vraiment dans un contexte totalement différent. Ici, vous avez un État qui est très très
qui
présent,
accompagne beaucoup
qui
plus,
accompagne
bien
beaucoup
sûr.
Plus. Voilà. Et puis un secteur de l'informel qui est bon, très très différent, existant mais très différent. La genèse du programme en France, je dois en parler quand même parce que l'idée est venue des équipes d'Entrepreneurs du Monde qui ont lancé un cri du cœur en 2015-2016, en disant « Mais attendez, on est installé à Lyon depuis 2015 et de plus en plus, nous avons des populations au bas de nos portes, des populations que l'on a l'habitude de toucher à l'international dans les pays en développement. Ces personnes qui arrivent sur le territoire, elles ont probablement les mêmes besoins que ces populations que l'on touche à l'international. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose pour elles. » Et donc, nous nous sommes évidemment appuyés sur nos pratiques, nos expériences à l'international et nous avons réfléchi entre nous. Nous avons rencontré une multitude d'acteurs sur le territoire lyonnais. Armel le disait tout à l'heure, on a été challengés aussi par nos donateurs et nos partenaires publics, privés, qui nous ont dit c'est très bien, Entrepreneurs du Monde, vous vous êtes installé à Lyon en 2015, maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire ici sur le territoire ? Et donc on a décidé de travailler sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'en matière de microfinance ici sur le territoire, vous avez des associations comme l'ADI qui font un boulot formidable. Sur l'énergie, on avait moins de pertinence à développer quelque chose et donc on a décidé de travailler sur la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat.
Sous quelle forme par exemple ?
Alors on a démarré sur des modules de formation comme on a l'habitude de le faire à l'international, hein, donc des modules qui sont plutôt ludiques, qui sont destinés à des groupes de personnes pour faciliter aussi le partage d'idées, de pratiques, d'expériences. Et puis notre accompagnement, il se fait dans la durée. Donc on a commencé comme ça en s'adressant à des populations fragiles, donc plutôt des personnes arrivant sur le territoire, personnes au RSA, issues des quartiers populaires, des femmes qui pouvaient être seules avec enfants, etc. Et on s'adressait à tout type d'activité. Au final, on a fait évoluer là encore notre méthodologie aussi pour mieux répondre aux besoins de certaines populations et pour se distinguer d'autres initiatives sur le territoire. Et donc on a développé aujourd'hui l'association Des Saveurs et des Ailes. Donc encore une fois, on est sur la création d'une entité locale. Association qui est évidemment incubée par Entrepreneurs du Monde et qui forme, accompagne des personnes passionnées de cuisine, mais qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir être formées, tester leur offre de service et être accompagnées dans le lancement de leur activité.
Et donc vous allez chercher aussi quand même ces personnes, parce que c'est vrai, la difficulté qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que c'est toujours un petit danger où il faut avoir un petit peu de courage quand même pour se lancer, de se dire je vais lancer mon entreprise. Comment vous allez les chercher ces personnes-là sur ce côté-là ?
Alors ici en France, on a des dizaines de prescripteurs. Et en premier lieu, je pense au Pôle emploi, qui nous réfèrent en fait des personnes qu'ils accompagnent et qui ont ce souhait, cette envie.
Donc il y a déjà cette envie.
Il faut cette envie-là. Mmh. Il faut cette envie-là. Après, c'est vrai qu'on va accueillir ces personnes et dès le départ, on va mener une phase d'accueil et d'écoute de ces personnes-là pour mieux cerner leur projet d'entreprise, pour mieux cerner leur envie, leurs compétences, leurs moyens, etc. Et puis on va les accompagner au fil du temps. Ce qu'on peut faire aussi pendant cette phase-là, c'est les mettre en relation avec d'autres organisations locales plus à même de répondre à leurs besoins. Ça peut concerner des papiers d'identité, l'éducation des enfants, le logement, etc. Mais effectivement, cette envie-là, bah derrière, il faut pouvoir l'accompagner, l'encadrer, la soutenir, l'épauler. Et c'est un travail au quotidien. Et parfois, voilà, des personnes, on le voit bien, ont un niveau de scolarité plutôt faible, mais une envie forte. Et quand on les met en phase de test, d'activité, ben on voit ce qui se dégage en fait. On voit ce qui se dégage et c'est un bonheur. C'est une envie d'aller plus loin et d'être autonome et indépendant.
Voilà. Est-ce qu'il y a forcément un lien avec le scolaire dans l'entrepreneuriat ?
Une base est toujours la bienvenue, si je peux me permettre. Savoir lire, compter, écrire. Alors, surtout en France, pour des personnes qui voudraient développer leur petite entreprise dans la restauration. Là, très franchement, c'est beaucoup plus pratique. Après, nous, sur le terrain, en Afrique de l'Ouest, non. La plupart de nos bénéficiaires ne savent ni lire ni écrire. Et c'est bien pour ça qu'on adapte nos formations à leurs besoins. Donc, beaucoup d'images, beaucoup de jeux, beaucoup de partage d'expériences.
Toujours la manière ludique. Armel Renaudin.
Je voudrais quand même ajouter une petite nuance en disant qu'il y a quand même une partie de la population qu'on appuie, que tu n'as pas cité Thibault, mais qui sont des jeunes qui ont été quand même un peu plus loin en scolarité, qui parfois ont même un petit diplôme après le bac, mais qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'il n'y a pas d'entreprise pour les embaucher ou que leur formation ne correspond pas du tout aux besoins des entreprises. Et ça, c'est pareil. Comme on était sur le terrain avec leur maman, on s'est rendu compte que ces personnes-là avaient besoin d'accompagnement et on a cherché à répondre à leurs besoins. On a créé des programmes spécifiques que Thibault pilote et on est même allé jusqu'à créer des ateliers écoles. Je vais vous en donner trois exemples. En Haïti, au Togo et au Sénégal, ce sont des ateliers écoles qu'on a créés en réponse aux besoins des jeunes et aux besoins de l'économie locale. En Haïti, c'est un atelier école d'assemblage de lampes solaires, parce que notre équipe d'accès à l'énergie importe des lampes chinoises et qu'on peut assembler des lampes françaises ou autres en Haïti. Donc répondre à un besoin d'éclairage en Haïti et créer de l'emploi, et créer aussi non seulement des emplois, mais une mentalité d'entrepreneur parmi les jeunes que nous épaulons. Autogo, c'est une entreprise de gestion des déchets, gestion des plastiques, pour éviter que tous ces plastiques se déversent dans la mer, création de compost, une entreprise, je dirais, verte, un vrai besoin, une réponse aux besoins. Et pour terminer, au Sénégal, en Casamance, on a créé une entreprise école de transformation de fruits en confiture, jus, etc., pour éviter que les fruits, qui sont là une énorme richesse en Casamance, ne restent pourrir dans les champs, parce qu'il faut savoir que jusqu'à 40% des récoltes sont perdues tous les ans, alors qu'il y a un savoir-faire, alors qu'il y a un marché, et qu'il fallait juste appuyer ce maillon faible qui est la transformation, et en formant ces jeunes à ces métiers de la transformation.
Et dans le futur, maintenant, entrepreneur du monde, est-ce que vous avez des projets ou des envies d'évolution, d'aller vers peut-être d'autres populations encore ?
Alors, on reçoit toutes les semaines des demandes pour aller aider des personnes dans des pays nouveaux. On est actuellement en préparation d'une ouverture au Liberia. On est aussi en train de faire évoluer en parallèle, c'est la diversité de nos ressources. Aujourd'hui, on peut nous aider avec des dons, mais on peut aussi nous aider avec des leviers d'investissement solidaire. Et donc, on a mis en place tout un écosystème autour d'Entrepreneurs du Monde pour pouvoir investir dans les entreprises sociales que nous créons. Aujourd'hui, on incube 21 entreprises sociales, mais il faut savoir qu'il y en a déjà 8 autres qui sont devenues autonomes et qui appuient à 150 000 micro-entrepreneurs tous les ans, sans nous. Donc, moi, je dirais que entrepreneuriat, économique, social, ça se marie bien avec un bon esprit, des bonnes valeurs.
Et si on souhaite vous soutenir, comment est-ce qu'on peut faire ?
Alors, pour nous soutenir, vous allez sur le site www.entrepreneurdumonde.org. Vous pouvez faire soit un don déductible de l'impôt sur le revenu. Il y a aussi une possibilité de faire un impôt déductible de l'IFI. Et puis, pour faire un investissement solidaire, vous m'envoyez un mail à contact@entrepreneurdumonde.org.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.